Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez.
Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange.
Y a-t-il un pilote dans l'assiette?
Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange.
La chronique diététique de Radio Alto.
Tu veux du saucisson à l'ail?
Oh non.
Bah moi je vais en prendre.
Ne mange pas
trop gras.
C'est le gras qui donne du goût aux choses.
Une émission proposée par Anne-Claude.
Oh, le beau gâteau.
On a dit trois parts, Obélix.
Diététicienne.
Au sucré.
Trop salé.
Épicurienne.
Essaye les trucs salés, ça passe tout seul. Un maximum d'épices, ça donne soif.
À l'heure où on prend conscience que l'intestin est un deuxième cerveau et que la flore intestinale joue un rôle vraiment important, Anne, peux-tu nous parler de cette fameuse flore et des aliments qui peuvent l'enrichir, par exemple?
Avec bonheur, très cher. Alors déjà, on peut peut-être recontextualiser et rappeler ce que c'est que la flore intestinale. On parle de microbiote intestinal, c'est la même chose. C'est l'ensemble des micro-organismes qui sont présents dans le tube digestif, en particulier dans la dernière partie de nos intestins qu'on appelle le colon. Alors, il y aurait entre 1 milliard et 100 000 millions de micro-organismes, c'est-à-dire 2 à 10 fois plus que le nombre de cellules qui constituent notre corps. Donc, on n'est pas tout seul.
C'est sûr.
Ces micro-organismes, ils vivent en symbiose avec le corps humain, ça veut dire qu'ils ne sont pas source de maladies, qui vont contribuer au bon fonctionnement de l'organisme tant que les populations sont équilibrées. On va voir ça.
Mais ouais, quelles sont leurs fonctions du coup?
Alors, parmi les fonctions, déjà, ils vont stimuler le transit digestif. Ils vont aussi avoir un rôle sur la digestion et l'assimilation des nutriments. Donc, par exemple, nous, il y a certaines substances qu'on ne digère pas complètement et que les bactéries intestinales vont fermenter. C'est le cas de certaines fibres végétales, de certains lipides alimentaires ou de protéines. Et en plus, ces braves petites bactéries, elles vont synthétiser, c'est-à-dire fabriquer certaines vitamines, comme des vitamines du groupe B ou des vitamines K, que nous, on va ensuite absorber. Donc, si tu veux... On a, nous, des résidus alimentaires qui leur parviennent et qui les nourrissent. Et en même temps, elles fabriquent des substances que nous, on va pouvoir absorber pour nous nourrir. Donc, c'est gagnant-gagnant, c'est super. Elles vont avoir un rôle aussi dans l'immunité, en empêchant notamment l'installation de certains agents pathogènes. Et puis, elles vont stimuler le système immunitaire. Et puis ensuite, tu parlais de deuxième cerveau. Il y a de plus en plus d'études qui montrent la relation entre le bon état de la flore intestinale et la santé psychique. Et notamment, les relations sont évoquées dans certains troubles neuropsychiatriques comme l'autisme, la schizophrénie, l'anxiété, la dépression ou les troubles bipolaires. Voilà. Il y a diverses souches de bactéries, il y a aussi des virus, des levures, des champignons, des protozoaires qui composent notre flore intestinale et chacun a une alimentation de prédilection. Donc selon notre alimentation, on va favoriser la croissance de certains micro-organismes au détriment d'autres. Quand certaines colonies se surdéveloppent, il peut y avoir un phénomène qu'on appelle la dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de la flore intestinale qui peut être source de maladies. C'est le cas notamment quand on a une alimentation pauvre en fibres ou trop riche en sucre, en graisse, en produits carnés, etc.
Mais qu'est-ce qui est bénéfique aux bactéries amies alors dans notre alimentation?
Alors, il y a ce qu'on appelle les prébiotiques et il y a les probiotiques. On va voir la différence entre les deux. Les prébiotiques, ce sont en fait des nutriments qui vont favoriser le développement, le bon fonctionnement des bactéries amies de notre flore intestinale. Et les prébiotiques, ce sont essentiellement les fibres végétales. Alors, les fibres, entendons-nous bien, c'est pas parce qu'un haricot vert a des fils qu'il a des fibres. Les fibres sont de toutes petites molécules qui sont en fait une variété de glucides que nous, on peut pas digérer. Nous, on n'a pas le bagage enzymatique pour les digérer et les assimiler. Donc, elles vont se retrouver en l'état, ces petites molécules, dans le côlon. Et dans le côlon, les bactéries de notre flore intestinale, elles ont le matériel pour les digérer, c'est-à-dire pour les faire fermenter et pour s'en nourrir. Donc, il y a des fibres non fermentescibles qui vont de toute façon repartir comme elles sont venues, mais il y a aussi des fibres fermentescibles et notamment les pectines ou les mucilages. Alors, on va trouver ces fibres solubles fermentescibles dans les fruits, notamment riches en pectines comme les pommes, les poires, les agrumes, c'est-à-dire les oranges, les pamplemousses ou les fraises, tu sais, les baies, les framboises, les cassis, les myrtilles, etc. Toutes ces petites graines avec ces pépins riches en pectines qui font les gelées. Voilà, on va en trouver aussi dans les légumes. Alors les champignons, c'est les asperges, les haricots, les choux de Bruxelles, les carottes. Dans les légumineuses, c'est-à-dire les lentilles, etc. Dans l'avoine, et notamment le son d'avoine. Ou alors dans les graines mucilagineuses, tu sais, comme le lin, le chia, quand on les hydrate, et ben ça forme un gel autour, ce sont les fibres mucilagineuses qui s'hydratent. Et on les voit faire. Alors, les compléments prébiotiques, ils sont souvent composés de fibres, d'ailleurs, hein, comme l'inuline qu'on va trouver dans la chicorée. Donc, un bon bol de chicorée, ça peut être une source de prébiotiques.
Ah ouais, chicorée ou autre salade ?
Alors, la chicorée, la racine de chicorée, effectivement, contient de l'inuline. Les feuilles, je ne suis pas sûre, par contre. Donc, c'est vraiment la racine dont on va faire ensuite cette boisson qui, elle, est prébiotique. Mmh. Donc, prébiotiques, on a vu. Les probiotiques, maintenant, ce sont des micro-organismes vivants qui vont être bénéfiques pour l'équilibre de la flore intestinale parce qu'ils vont, contribuer à l'ensemencer. Voilà. Ces micro-organismes vivants, on va les trouver dans les produits laitiers fermentés, notamment dans les yaourts. Alors, dans les yaourts, on va en trouver beaucoup des probiotiques, à condition que le yaourt, il n'est pas passé déjà 6 semaines dans le frigo. Parce qu'au fur et à mesure, évidemment, la flore présente dans le yaourt va s'épuiser, va s'inactiver, etc. Par contre, quand on fait un bon yaourt maison et qu'on le mange le lendemain de la fermentation, là, on est sûr d'avoir une population riche de flore lactique. Voilà. Il y a aussi des produits japonais traditionnels qui sont connus pour leurs propriétés probiotiques, comme la pâte de soja fermentée, le miso, tu sais, qui est un condiment salé, aromatique, dont on parfume le bouillon miso. Et puis, on a des sauces, les sauces soja, comme le tamari et le shoyu, qui sont riches en probiotiques, à condition qu'ils ne soient pas pasteurisés.
Oui, ce qui est généralement le cas dans beaucoup de commerces on les achète.
Mais voilà, parce que c'est la pasteurisation détruit les micro-organismes pour favoriser la conservation, sauf que elle détruit les micro-organismes utiles aussi. Et là, c'est dommage quand on a des produits qui sont fermentés justement pour leur conservation. Donc, on en trouve dans certaines marques, normalement, ils marquent sur le flacon non pasteurisé. Donc, on peut être attentif à ça. On va avoir des légumes lacto-fermentés aussi, comme les pickles qui sont très à la mode, ou le kimchi. On a la choucroute aussi traditionnelle qui est un légume lacto-fermenté. Donc évidemment, à condition de ne pas le faire bouillir pendant 3 heures. Là, évidemment, on va aussi tuer tous les lacto-ferments qui sont à l'intérieur. On a des boissons fermentées très à la mode, comme le kéfir, le kombucha, qui évidemment sont riches en probiotiques. Et puis on a des aliments naturels, comme le miel, à condition bien sûr qu'il ne soit pas pasteurisé, qui va être source de probiotiques également. Alors, on entend vanter beaucoup les vertus des aliments pré-probiotiques. C'est pas bon pour tout le monde. À nouveau, on fait attention. Il y a des personnes qui ont une grande sensibilité intestinale et chez qui, par exemple, le kéfir ou le kombucha vont être trop sollicitants. Donc, c'est pas parce qu'on dit que c'est bien qu'il faut commencer à y aller abondamment. On y va tout doucement si on a envie de tester et on vérifie toujours sa tolérance personnelle.
Ok, ça pourrait d'ailleurs être de l'ordre d'une prochaine chronique.
Mais avec bonheur, très cher.
Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.
Le diable un jour parlant à la radio fit un discours commençant par ces mots. Supprimons la bomba, supprimons la la la, et remplaçons-la par ce fruit délicat.
Ça vaut quand même mieux que des barbituriques.
Ah ouais.